Vous connaissez cette histoire, c'est une vieille histoire, mais cependant, cette histoire ancienne semble très contemporaine par rapport à ce qu'elle contient. Sa mère était morte depuis 1 ou 2 ans seulement. Il avait 30 ans et était arrivé à l'âge où il est convenable de se marier. Alors son père, Abraham, a pris les choses en main parce qu'il n'était pas question que son fils Isaac se marie avec une des femmes provenant des nations environnantes. Il voulait que sa femme soit une croyante, fervente. Alors, il a organisé les choses pour son fils. Il a été chercher son fidèle serviteur, Eliezer, pour lui confier une mission très importante. Aller chercher une épouse pour Isaac. Cette histoire nous est racontée dans le livre de la Genèse, au chapitre 24, où il nous est dit que Abraham a appelé Eliezer et lui a fait prêter serment par rapport à la mission qu'il devait accomplir. Eliezer était un homme de confiance. Vous vous souvenez que avant que Abraham ait des enfants, Abraham avait pensé le faire héritier de tous ses biens. Cet homme avait acquis la confiance d'Abraham et maintenant il va lui confier une mission tout à fait spéciale, aller chercher une femme pour Isaac. Alors évidemment, aujourd'hui, les choses se passent un petit peu autrement. Je ne sais pas si les jeunes aimeraient tellement que les parents décident exactement qui ils doivent épouser. Mais pour rester dans le contexte de ce temps-là, c'est ainsi que les choses se sont passées. Et il nous est dit que Eliezer a pris 10 chameaux de son maître et tout le matériel nécessaire. Et il a chargé les 10 chameaux. On peut lire dans Genèse au chapitre 24 comment Eliezer raconte par la suite ce départ de la maison d'Abraham. Dans Genèse au chapitre 24 au verset 40, il parle de cette conversation qu'il avait avec Abraham. Il dit, et il m'a répondu, « L'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. » Alors Eliezer va ramasser tout le matériel nécessaire. Il va prendre 10 chameaux et il va les charger de tout ce qu'il faut. Il va prendre la nourriture pour ce long voyage. Il va prendre tout le matériel de camping, parce qu'on va camper le long du chemin. Il y aura aussi des soldats avec le convoi pour les protéger. Alors vous imaginez les 10 pick-up alignés là les uns derrière les autres devant la résidence de Père Abraham, prêts à partir, chargés à bloc. La nourriture, le matériel de camping, les armes, les cadeaux, parce qu'il faut apporter beaucoup de cadeaux. Et à la fin de la ligne, la limousine noire pour la femme d'Isaac. Voilà le convoi qui part. On a fait le plein d'essence, on est prêt à partir, et Eliezer s'en va. C'est un long voyage. Il part, et il va finalement arriver dans la ville où habite le frère de Abraham, qui s'appelle Nakhor. Et il arrive là, et il se demande, mais en fait, le voyage ne fait que commencer maintenant. Comment trouver la perle, celle que Dieu a préparée pour Isaac, comment je vais la trouver? C'est un peu comme trouver une épingle dans une botte de paille. Où est-elle? Comment je vais la trouver, moi? Alors, il n'y a qu'une chose à faire, texter Dieu en vitesse pour qu'il dise ce qu'il faut faire. Et c'est ce qu'il fait. Il va adresser une prière à Dieu. Elle nous est rapportée dans le livre de la Genèse, au chapitre 24, au verset 14. Genèse chapitre 24 verset 14. Il s'adresse à Dieu et il dit « Que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive » et qui répondra « Bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux » soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Alors il demande un signe. Fait que la première jeune fille qui vient et à qui je demande à boire et qui propose aussi de donner à boire à mes chameaux, ce soit la bonne. Et le texte est intéressant parce qu'il nous dit, il avait à peine fini de parler au Seigneur, que voilà, une jeune fille arrive, une cruche sur l'épaule, qui vient au puits où il s'était arrêté. Éliézer est à la porte de la ville, au puits où l'on vient puiser, et il est là avec ses 10 pick-up chargés, la limousine derrière, et il se demande comment il va faire. Avait-il à peine fini de parler à Dieu que cette charmante jeune fille arrive? Alors, il va la voir tout de suite. Il dit, est-ce que tu veux bien me donner à boire? Elle va lui donner à boire dans la main. Elle va lui dire, mais je vais aussi donner à boire à tes chameaux. Vous imaginez la tête d'Éliézer? Ça y est, je l'ai trouvé. C'est déjà fait. Et alors, elle va donner à boire à tous ses chameaux. Seulement, ces chameaux ont fait un long chemin. Ils ont voyagé à travers des zones désertiques. Et vous savez qu'un chameau peut boire jusqu'à 135 litres en 10 minutes. Alors quand Rebecca propose de donner à boire au chameau, c'est un travail énorme. Alors je ne sais pas s'ils ont bu 135 litres chacun, mais écoutez, même s'ils ont bu plusieurs dizaines de litres chacun, il a fallu aller du puits à l'abreuvoir, jusqu'à ce que ces 10 chameaux aient suffisamment bu pour être tranquilles de nouveau. Vous imaginez faire le plein des 10 pick-up, les uns derrière les autres? C'est un travail énorme. Et pendant tout ce temps-là, Éliézer est là, les yeux grands ouverts, en regardant cette jeune femme qui fait l'aller-retour depuis le puits jusqu'à l'abreuvoir. Et il se dit, c'est celle-là. Je l'ai déjà trouvée. Merci Seigneur. Déjà trouvée. Alors évidemment, je sais que aujourd'hui, certains voudraient que ça aille aussi vite, puis que ça aille aussi bien, que ce soit aussi simple. Ce n'est pas toujours le cas. Je ne sais pas si cette histoire peut inspirer certains par rapport à la méthode à employer. C'est à eux de voir si c'est approprié. Mais en tout cas, je sais une chose, c'est que le Seigneur entend et que le Seigneur répond au temps voulu. En tout cas, le voyage est déjà terminé pour Éliézer. Il a trouvé celle que Dieu a préparée pour son maître Isaac. Il a trouvé la perle. Alors, lorsqu'elle a fini de donner à boire au chameau, il vient la voir et lui dit, mais t'es qui, toi? Alors, elle lui dit, mais moi, je suis la fille de Bethuel. Et Bethuel, c'est le fils de Nacor. Ah, mais ça y est, c'est exactement ce qu'il fallait, parce que Nacor, c'est le frère d'Abraham, et c'est exactement la mission qui lui avait été donnée, de chercher quelqu'un dans la famille, quelqu'un qui était un croyant. Le voyage est terminé. Alors évidemment, tout le monde est invité chez Bethuel, tout le monde, c'est-à-dire les 10 chameaux et avec tout le monde qui est avec. Il y a toute une troupe qui suit Éliézer et qui arrive chez Bethuel. Alors vous pouvez imaginer Bethuel qui voit arriver toute cette caravane chez lui, à la tête de cette caravane Éliézer, et Rebecca qui vient et qui dit, voilà, j'ai rencontré cet homme, il a une histoire à te raconter. Alors hospitalité oblige, tout ce clan est invité, il y a là Bethuel, il y a là aussi Laban qui est le frère aîné, et puis on s'installe. Et Éliézer commence à raconter son histoire. Il commence à raconter le début du voyage, et puis tout le voyage en long, en large et en travers. Il raconte sa prière à Dieu pour trouver la femme que Dieu avait choisie pour Isaac. Il lui raconte tout ce qui s'est passé au puits de la ville. Il raconte tout ça à Bethuel et à toute la famille qu'elle a réunie. Alors, ayant entendu cette histoire racontée dans tous les détails, ils se disent, Dieu était dans cette affaire-là, c'est clair. Dieu était dans cette affaire-là et Rebecca, vraiment, doit aller épouser Isaac. Et puis tout d'un coup, ils se demandent, tiens, mais si on demandait à Rebecca ce qu'elle en pense, au fait. Et vous la remarquez dans le texte est intéressant, dans Genèse au chapitre 24, au verset 57, par exemple. Genèse chapitre 24, verset 57, il est écrit « Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils avaient déjà tout décidé en famille, mais enfin ils la consultent. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit « J'irai. » Fantastique, ils ont tout décidé et puis elle est même d'accord avec eux. La chose est faite. Alors évidemment, on peut comprendre cette histoire qui est une belle histoire de l'intervention de Dieu dans la vie de ses enfants, mais on peut la comprendre aussi comme une immense parabole. D'ailleurs, ce qui concerne Isaac dans les Écritures a aussi un sens de parabole. Gardez votre doigt dans Genèse 24 et regardez avec moi un passage qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Dans ce chapitre, vous vous souvenez que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va présenter tous les géants de la foi dans la compréhension des premiers croyants. Il va commencer Abel et au travers du temps passer en revue tous ceux qui se sont singularisés par une foi puissante dans l'histoire d'Israël. Et au verset 17, il est écrit ceci. Hébreux chapitre 11, verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Vous remarquez qu'il n'est pas le fils unique et vous remarquez qu'il n'est pas le seul fils, mais on comprend déjà qu'il y a là une intention particulière. Et le texte continue en disant « Il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. » Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. » Et le mot qui est employé dans ce texte et qui est traduit en français par « préfiguration », c'est un mot que vous allez très bien comprendre, c'est le mot « parabolé », avec lequel nous avons fait le mot « parabole » en français. Référence est faite ici, bien entendu, à ce sacrifice d'Isaac, qui nous est rapporté dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, et où on apprend que Dieu avait demandé à Abraham d'aller offrir son fils bien-aimé, son fils unique, dans le sens biblique du terme. Mais l'histoire d'Isaac est une parabole entière, et l'histoire que nous avons aujourd'hui sous les yeux est aussi une parabole tout entière. Parce que derrière Isaac, il y a nécessairement le vrai Isaac, le vrai sacrifice, c'est-à-dire Jésus. Parce qu'un jour, il n'y a pas eu d'ange pour retenir la main qui a mis le fils à mort. Lorsque Abraham a fait le sacrifice d'Isaac par la foi, l'ange au dernier moment a retenu Abraham pour qu'il n'aille pas jusqu'au bout de sa foi, si on peut dire ainsi. Mais lorsque la croix a été érigée sur le mont Golgotha, aucune main n'est venue arrêter pour que le sacrifice n'ait pas lieu. Et le sacrifice a eu lieu, le vrai sacrifice, le sacrifice de celui qui ôte le péché du monde. Derrière Isaac, il y a Jésus. Et bien sûr, derrière Rebecca, derrière l'épouse, il y a l'Église. Et on voit dans l'Église cette image que l'on retrouve tout au travers des Écritures. L'épouse, le peuple de Dieu. Maintenant, Éliézer, qui est-il et que représente-t-il dans cette histoire? Alors, j'aimerais reprendre dans le livre de la Genèse, au chapitre 24, un passage que je trouve intéressant. Lorsque Abraham envoie son serviteur, au verset 10, il est écrit ceci. Genèse, chapitre 24, au verset 10. Il est dit, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Éliézer est parti, ayant les pleins pouvoirs sur les biens d'Abraham. Abraham lui a donné toutes ses cartes de crédit et lui a dit, écoute, tu prends tout ça, tu te débrouilles, mais tu trouves une femme pour Isaac. Éliézer est parti, ayant à sa disposition, nous dit le texte, tous les biens d'Abraham. Il pouvait en disposer pour autant qu'il accomplisse la mission qui lui avait été donnée. Cette confiance des pleins pouvoirs me rappelle quelque chose que nous connaissons dans le Nouveau Testament. Et je vous invite à regarder ce texte avec moi dans l'Évangile de Jean au chapitre 16. Évangile de Jean au chapitre 16. Vous vous souvenez que dans ce chapitre, Jésus va apporter cette promesse qu'il a faite à ses disciples d'envoyer son Saint-Esprit. Et au verset 14, il est écrit ceci. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 14. En parlant du Saint-Esprit, Jésus dit, « Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Remarquez ici, le Saint-Esprit a aussi les pleins pouvoirs de la part de Dieu. En fait, derrière Éliézer se trouve l'action du Saint-Esprit qui conduit l'Église, soit globalement, soit nous-mêmes individuellement, dans notre marche vers le Christ. Éliézer est une image de l'action du Saint-Esprit. D'ailleurs, lorsqu'on reprend notre histoire, vous pensez à Rebecca, à qui on demande « Est-ce que tu veux aller ?» qui répond « J'irai ». Elle y va simplement sur le témoignage que Éliézer a rapporté concernant toute cette histoire. Elle comprend, d'après le témoignage d'Éliézer, que c'est exactement ce que Dieu a choisi pour elle. Et elle répond par la foi au témoignage du Saint-Esprit. Éliézer, dans cette histoire, joue le rôle de l'Esprit-Saint. Et Rebecca va répondre avec foi à ce témoignage. Elle va d'ailleurs répondre favorablement à quelque chose d'important, parce qu'elle va refaire le même chemin que celui qu'a fait Abraham lorsque Dieu l'a appelé en lui disant « Pars de chez toi et puis je te dirai où il faut que tu ailles ». C'est le même chemin qu'elle va faire. Un même chemin, on sait d'où on part, on ne sait pas exactement où on va, mais on y va par la foi. C'est ce même parcours que Rebecca va faire, ayant accepté par la foi le témoignage qu'elle a reçu par le Saint-Esprit, le témoignage que lui a donné Éliézer. Maintenant, toute cette compagnie d'Éliézer est installée là chez Bethuel. Il a raconté cette histoire passionnante, comment il a été conduit dans sa recherche. Et on voudrait maintenant qu'il reste là, qu'il s'installe au moins pendant une semaine ou pendant 10 jours. Mais Éliézer, lui, a un agenda bien précis. Regardez de nouveau dans Genèse au chapitre 24. Éliézer va réagir à cette invitation. Au verset 56. Genèse chapitre 24, verset 56. Il est écrit, il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Éliézer dit, « Non, non, non. Je ne vais pas rester ici à rien faire. Vous vous rendez compte, le Seigneur a dirigé mon voyage, il faut que je reparte, il faut que je l'amène à Isaac. Vous ne vous rendez pas compte comme il est impatient, il attend de l'autre côté. » Alors finalement, Éliézer propose de ne pas perdre de temps et d'aller directement au but. Ça me rappelle ce que l'apôtre Paul écrivait dans l'Épître aux Philippiens. Regardez ce passage, si vous voulez, avec moi dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3, où l'apôtre Paul exprime le même état d'esprit. Poussé par le Saint-Esprit, il écrit à l'église de Philippe, dans cette lettre, au chapitre 3, au verset 13, en parlant de la perfection chrétienne, il dit, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Je cours, dit l'apôtre Paul. Éliézer est en train de dire, écoutez, ce n'est pas le moment de s'asseoir, c'est le moment de courir. On a trouvé l'épouse d'Isaac. Je ne vais pas rester ici à attendre. On y va, ne me retardez pas. » Alors, ils se remettent en chemin. On va préparer le départ. Et je crois que Bethuel a dû dire un dernier au revoir à sa fille Rebecca, Et ce qu'il lui a dit est écrit dans les Écritures, je crois. Dans le psaume 45 se trouve, me semble-t-il, ce que Bethuel a dit à Rebecca au moment où elle allait repartir. Psaume 45, au verset 11. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Voilà probablement ce que Bethuel a dit à sa fille. Et on se rend bien compte que derrière cette histoire, il y a toute l'histoire de l'Église qui va à la rencontre de Jésus-Christ. Alors, le voyage de retour commence. Mais c'est un long voyage, c'est un voyage d'environ 1800 kilomètres, peut-être 2000. On ne fait pas ça à toute vitesse. On va prendre son temps, c'est-à-dire qu'on va aller à la vitesse des chameaux. Beaucoup plus tard, Esdras va faire le même chemin. Il aura avec lui un peuple assez nombreux. Il mettra 4 mois pour faire ce parcours-là. Cette fois-ci, Eliezer est un peu pressé. Il va sûrement mettre moins de temps. Mais il mettra sans aucun doute plusieurs semaines. Il pense à Isaac qui est impatient. Vous comprenez ? Il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de site internet où on peut aller voir des photos, voir comment, à quoi elle ressemble, avoir ses caractéristiques. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a même pas le téléphone. Alors, il pense à Isaac de l'autre côté qui attend pendant des mois et des mois. Et ce voyage va durer plusieurs semaines. Alors, je n'ai pas de mal à imaginer que pendant ce voyage, le chameau de Rebecca vient se mettre à côté du chameau de Eliezer et elle commence à lui poser des questions. Comment est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il est beau ? Quel âge a-t-il ? Quels sont ses plats préférés ? Quelle est sa couleur préférée ? Ses qualités, c'est quoi ? Et puis, ses défauts ? Et vous pouvez imaginer, à vitesse de chameau, Eliezer qui commence à raconter tout ce qu'il sait sur son maître Isaac. Et Rebecca est toute oreille pour entendre qui est cet homme qui l'attend des milliers de kilomètres plus loin. Ça va prendre du temps et elle va lui poser toutes les questions qu'une femme peut poser, c'est-à-dire beaucoup. Et il aura la réponse à toutes ces questions parce que Eliezer, il l'a vu naître cet Isaac. Il était là lorsqu'il est né. Et puis, il va lui raconter l'histoire du sacrifice manqué, si on peut dire, parce que lui aussi était là. Il était un des 2 serviteurs qui a accompagné Abraham et Isaac. Et lui était là, il a bien vu qu'il y avait le feu, qu'il y avait le couteau, qu'il y avait le bois, il a bien vu qu'il manquait quelque chose. Il le savait, il a bien senti qu'il y avait quelque chose d'anormal dans cette affaire, bien avant qu'Isaac ne le réalise. Il était lui parmi ses 2 serviteurs qu'Abraham a laissés un peu en arrière pour ne pas qu'ils interfèrent dans cette expérience tout à fait particulière. Alors il va lui raconter tout ça en détail pour lui faire connaître qui est ce personnage particulier, unique en son genre, le fils unique d'Abraham. Et pendant ces milliers de kilomètres à dos de chameau, elle va apprendre à connaître celui qu'elle va rencontrer. Oh, c'est un long voyage, mais c'est exactement ce que le Saint-Esprit fait avec nous. Revenez, si vous voulez, dans l'évangile de Jean au chapitre 16. Évangile de Jean, chapitre 16, Jésus parle là encore de l'action du Saint-Esprit. Et il dit ceci au verset 13. Évangile de Jean, chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. « Il me glorifiera, dit Jésus. » Il ne parle pas de lui-même, il va parler de Jésus. Il va glorifier Jésus, l'époux, finalement. Ce que Éliézer fait tout le long de ce voyage, c'est en réalité ce que le Saint-Esprit fait avec chacun d'entre nous. Apporter un témoignage de Jésus-Christ. Le faire connaître, nous apprendre à l'aimer, à le recevoir, déjà même sans l'avoir vu. D'ailleurs, l'apôtre Pierre reprend cette expression par rapport à l'expérience des chrétiens du premier siècle. Regardez dans la première épître de Pierre au chapitre 1er. Première épître de Pierre, chapitre 1er, au verset 8. En parlant de Jésus, Pierre écrit « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » C'est exactement l'expérience de Rebecca, celle qui est ici décrite et qui est en rapport avec l'action du Saint-Esprit. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore. Tout ce que Éliézer a raconté sur Isaac était destiné à construire dans le cœur de cette femme l'amour pour ce jeune homme qu'elle n'avait pas encore vu. C'est ce que le Saint-Esprit fait avec chacun d'entre nous, nous apportant ce témoignage de qui est Jésus pour nous permettre le long du voyage de grandir dans cet amour et dans cette connaissance de l'époux, de celui qui est notre Sauveur. Alors il y a eu, bien entendu, des moments difficiles, il y a eu des hésitations. Vous savez comment dans notre vie chrétienne il y a des hauts et des bas. Rebecca a dû se dire un jour « Je suis impatiente de le voir ». Et puis le lendemain, elle a été prise de peur, de panique, elle a eu envie de retourner chez papa et maman. Et puis le lendemain, ça allait mieux. Et puis elle s'est posé des questions. Il y a eu dans ce cheminement de kilomètres et de kilomètres qui s'allongeaient les uns derrière les autres, toutes les variantes de l'expérience chrétienne que nous vivons nous aussi dans notre marche avec Dieu, avec les hauts et les bas, avec les aléas, les points forts et les points faibles. Mais finalement, ce que Éliézer a fait, c'est ce que le Saint-Esprit fait avec chacun d'entre nous. Mais nous ne sommes pas encore arrivés au bout du voyage. En fait, ce que Éliézer est en train de faire, c'est de préparer pour Rebecca la fin de ce voyage, pour la préparer à la rencontre avec Isaac. Et quand vous y pensez, c'est en fait l'essence de ce que le Saint-Esprit fait avec nous, nous préparer pour la rencontre avec Jésus, c'est-à-dire pour son retour. C'est une image de cette préparation au retour de Jésus. C'est là le cœur même du message adventiste. Et que pensez-vous qu'un pasteur adventiste puisse dire à son église dans un dernier message, si ce n'est que de se préparer au retour de Jésus? C'est le cœur même de l'évangile éternel. C'est la vérité présente pour aujourd'hui. Se préparer à la rencontre avec l'époux qui vient. Quand il vient, je ne sais pas. Parce que nous ne connaissons pas la durée du voyage. Mais il y a pour nous, comme pour Rebecca, le long du voyage, toutes sortes de choses, des dangers, des distractions, des peurs, des inquiétudes, des joies, tout ce qui fait notre vie chrétienne. Tout cela s'est trouvé le long du voyage de Rebecca pour aller retrouver son maître, Isaac. Alors, le voyage touche à sa fin. Et dans Genèse 24, il nous est rapporté un détail intéressant au verset 63. Genèse chapitre 24, verset 63. Il est écrit ceci. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici, des chameaux arrivaient. Vous pensez bien que le long du voyage, Rebecca a dû demander, comme les enfants qui sont dans la voiture, « On est bientôt arrivé, c'est encore loin, oh, il y a encore 3 semaines de chemin, il y a encore 10 jours de route. » Et puis un jour, Éliézer lui a dit « Regarde, tu vois les collines qui sont là-bas au fond, Eh bien, derrière ces collines, c'est là que se trouvent les tentes d'Abraham. Alors, elle a dû commencer à avoir une espèce d'excitation intérieure. Et puis, on approchait. Et le texte nous dit que Isaac était dans les champs et qu'il méditait. Alors, que pensez-vous qu'il faisait dans les champs? Pour qui priait-il? À quoi pensait-il? L'évangile de Jean nous le dit. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, se trouve cette fameuse prière que Jésus adresse à Dieu pour ses disciples. Dans Jean, chapitre 17, au verset 15, il est dit, et Jésus ici est en train de prier, il dit à Dieu, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Isaac est là en train d'intercéder. Mais que fait donc Jésus, le vrai Isaac, en attendant que l'épouse arrive? L'Épître aux Romains nous dit exactement cela dans Romains chapitre 8, verset 34. Il nous est dit que Christ intercède pour nous. C'est exactement ce que Isaac fait, c'est exactement ce que Jésus, c'est exactement ce que l'époux est en train de faire. Il intercède pour nous, il prie pour nous, pour que nous soyons préservés le long du chemin, que nous soyons préservés des dangers du voyage de la vie chrétienne et que nous puissions arriver à bon port. C'est cela qu'il fait. Alors, Eliezer prépare Rebecca pour le grand jour, le jour où elle va rencontrer l'époux. Mais vous pensez bien, il y a derrière Eliezer une image du Saint-Esprit qui nous conduit à Christ, qui nous conduit dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne, que ce soit une marche collective ou que ce soit une marche individuelle. Eliezer nous conduit dans cette marche. Le Saint-Esprit nous conduit dans cette marche. Mais derrière le personnage d'Eliezer, il y a aussi tous les serviteurs de Dieu qui conduisent l'Église en marche vers la rencontre avec le Christ. Et je me considère comme privilégié d'avoir eu la grâce de rentrer dans ce rôle d'Eliezer pendant une douzaine d'années pour servir l'Église, pour accompagner l'Église. C'est une grâce que le Seigneur donne à ses serviteurs de pouvoir accomplir. Mais nous ne sommes pas encore arrivés au bout du chemin. Il y a encore des obstacles à traverser, il y a encore des défis à relever, il y a encore un bout de chemin à parcourir. Cependant, la fin de cette histoire, au lieu de la lire dans le livre de la Genèse, j'aimerais la lire avec vous dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Là se trouve la fin de l'histoire. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 7, il est dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. » Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alors je prie que le Seigneur nous donne la grâce à chacun d'être là pour les noces de l'agneau. Amen.